débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Les regains de tension au Proche-Orient avec Iran qui rentre dans la danse était l'élément que l'on redoutait et qui risquait potentiellement d'alimenter un choc énergétique. Le prix du pétrole est maintenant au-dessus de 90$. On va voir ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Un choc énergétique voudrait dire une menace réelle et sérieuse sur les politiques contre l'inflation qui ont été menées jusqu'à présent dans les pays développés, notamment en Union européenne. Emmanuel Macron a globalement enterré l'idée de désendetter le pays à l'horizon 2027. L'objectif, c'est juste de stabiliser la dette. On attend le verdict des agences de notation. Est-ce qu'elles pourront changer la donne? Est-ce qu'elles pourront jouer le rôle de force de rappel? C'est l'une des questions que l'on va poser. Et puis, objectivement, continuer à promettre le zéro impôt, est-ce que c'est tenable quand discrètement et en catimini, on taille et on taille et on taille dans la dépense fiscale? On dira un mot du CETA, l'accord que Gabriel Attal a défendu lors de son déplacement au Canada. Il y voit quelque chose de gagnant-gagnant face à une montée objective des tentations protectionnistes. Et puis, un sujet qui m'avait échappé, mais un de mes invités m'a alerté dessus, l'ouverture d'un débat à la Commission européenne sur la future norme de sécurité cloud. Ça nous conduit, en théorie, à la souveraineté numérique. Alors, est-ce le cas? Est-ce que l'Europe est sur la bonne voie face à la toute-puissance américaine sur les data? Bonjour Emmanuel Comte.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, vous êtes professeur à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School, vous avez coécrit le transport aérien. À la découverte, c'est le dernier, je crois.
Oui,
c'est ça. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour.
Bonjour.
Il est PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République, la place de marché Internet qui offre des solutions d'entreprise aux enjeux du pays. C'est vous, Léonidas, qui m'avez alerté sur ce
UCS.
Oui, oui. Voilà, cette norme européenne de sécurité. La vérité, c'est que je suis allé voir ce que c'était.
Oui.
Donc vous allez m'expliquer ce que c'est parce que je ne suis pas très au courant, finalement.
Bon, c'est la cybersécurité.
J'ai suivi pas mal d'éléments sur les nouvelles réglementations européennes, notamment le DSA, le DMA, mais il y en a quand même certaines où mon expertise s'arrête. Bonjour Erwan Tison, spécialiste du recul de la productivité, le sujet qui déchire les économistes, directeur des études de l'Institut Sapiens et co-auteur de Un robot dans ma voiture, prendre le virage, le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Un rebond du prix du pétrole est déjà engagé. Une hausse du prix du gaz naturel a été observée depuis vendredi. On a pris 7% sur l'indice de référence européen à Rotterdam. Effet immédiat, évidemment, avec l'entrée de l'Iran, qui, compte tenu de sa capacité à bloquer le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du brut mondial et un quart du GNL mondial quotidiennement, a la possibilité d'alimenter un choc énergétique, même plus qu'un choc pétrolier. Pour l'instant, tout s'était plutôt bien passé, compte tenu sur le prix du baril de pétrole, malgré les événements au Proche-Orient. Mais là, la situation est évidemment nouvelle. Emmanuel Combes, c'est pas compliqué. Si on a un choc énergétique dans un pays totalement dépendant pour son énergie fossile, c'est la lutte contre l'inflation qui est mise à l'arrêt.
Ah, mais c'est mécanique. Ça s'appelle de l'inflation à importer. Et si je prends un tout petit peu de recul par rapport au sujet, ce que je trouve intéressant, et ça conforte la thèse que, vous le savez, je défends depuis 3-4 ans, c'est qu'on est entré dans un monde où l'inflation structurelle sera plus forte. Un, protectionnisme, on va y revenir, hein, le protectionnisme ça fait monter les prix, on l'oublie. Secondement, la transition climatique, ça fait monter les coûts, notamment parce qu'il y a des sécheresses, parce qu'il y a des événements extrêmes. Et troisièmement, on est rentré dans un monde où la géopolitique devient très importante. En réalité, le prix du pétrole, c'est un événement géopolitique, c'est pas un événement économique. Et comme on va voir se multiplier ce type d'événement, enfin probablement, malheureusement, tendanciellement, vous devriez avoir une inflation structurelle qui soit plus importante. Donc oui, pour répondre à votre question très clairement, ça va s'appeler de l'inflation importée.
De l'inflation importée. Ça veut dire qu'on attend, Léonidas, la baisse des taux de la BCE. Je sais que vous êtes friand à l'idée que les banques centrales baissent leurs taux d'intérêt, enfin.
Oui.
Et là, si on a un choc énergétique avec un regain d'inflation, eh bien, de la même manière qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale est peut-être en train de mettre la pédale douce sur ses prévisions de baisse de taux, ça peut remettre tout simplement en cause le desserrement de politique monétaire tant attendu, qui pour l'instant est pratiquement annoncé pour le 6 juin.
Oui, mais il y a quand même un véritable paradoxe à vouloir lutter contre une inflation importée comme celle que l'on risque d'avoir avec les menaces sur le détroit d'Ormuz et utiliser par rapport à cette inflation qui n'a strictement rien d'autre que une espèce de conséquence sur les marchés énergétiques de tensions géopolitiques. On ne va pas utiliser les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation liée à l'augmentation des prix énergétiques.
Enfin, on referait la même erreur que la première fois.
Enfin, faut arrêter. Il y a un moment donné où cette absurdité-là, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, On a eu déjà une première vague d'inflation.
Vous appelez ça une absurdité? Parce que le choix des mots est toujours compliqué pour
essayer. C'est une absurdité. Enfin, pardon, mais c'est comme, je sais pas, prendre une aspirine pour lutter contre je ne sais quelle maladie infectieuse. Enfin, c'est absurde. C'est un mauvais médicament par rapport à une maladie que l'on identifie comme étant effectivement l'augmentation des prix énergétiques. Donc, si on a ce phénomène-là, eh bien, globalement, la planète entière et l'économie mondiale va se retrouver avec des tensions inflationnistes, mais on ne va pas recommencer à pénaliser encore plus l'économie en agissant sur les taux d'intérêt pour les augmenter, pour lutter de manière, presque irrationnelle sur quelque chose qui n'a aucune chance de varier avec les taux d'intérêt. C'est pas parce qu'on va faire bouger les taux d'intérêt en Europe, aux États-Unis, que le détroit d'Hormuz va se libérer.
Je suis d'accord, Léonidas. Je reviens à cette discussion que j'avais eue un jour un peu inattendue avec un responsable de la Banque de France qui m'avait dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans cette situation
d'abord?
Si on ne fait rien, oui, on est en porte-à-faux par rapport à notre mission.
Bah oui.
Même si, effectivement, peut-être que l'arme des taux n'est pas la bonne face à un choc d'offre. Bah, car c'est un choc d'offre.
C'est un choc d'offre sur un marché très particulier qui a une incidence sur la totalité de l'économie. Mais pardonnez-moi, mais je pense que personne ne s'intéresse à la question de savoir si, psychologiquement, les directeurs de banque centrale se sentent à l'aise à ne rien faire devant un choc inflationniste. Ils n'ont pas d'armes pour lutter contre les effets du blocage du détroit d'Hormuz.
Erwan, pour refermer le sujet sur le risque d'un choc d'offre énergétique.
Non, mais la BCE sera obligée de bouger parce que...
Obligée de bouger dans quel sens?
Elle sera obligée de bouger au niveau de ses taux. Elle sera obligée de refaire marche arrière par rapport à ce qui était prévu.
C'est pas possible.
Elle a une mission, c'est lutter contre l'inflation. C'est sa mission statutaire. Elle ne peut pas aller à l'encontre de ses statuts. Parce qu'en plus, elle a fixé une règle et elle est 100% indépendante. Donc, si jamais elle se mettait à dire, effectivement, j'entends votre argument, Léonidas, mais si elle se mettait à dire, l'inflation en question, c'est de l'inflation type énergétique, donc du coup je ne vais pas bouger sur les taux, elle ferait de la décision. Et dans ces cas-là, malheureusement, elle changerait complètement son statut qui est basé sur une règle, et en faisant de la décision, elle peut effriter
sa
en tout cas la crédibilité qu'elle aurait. Et vu, on en parlera après, la montagne de dettes qu'on a aujourd'hui, notamment en France, ça serait là, pour le coup, il y aurait un vrai risque de défaut, en tout cas, je dis bien le mot défaut, sur la dette française, à cause justement de la crédibilité de l'euro. Donc la BCE sera obligée de bouger. Elle se fout de savoir de l'origine. Ce qu'elle traite, c'est les symptômes.
Je pense que Erwan a raison.
Mais bien sûr.
Je pense qu'Erwan a raison. Vous n'êtes pas... Ça fait longtemps que vous avez le même discours et vous êtes maintenant nombreux à l'avoir et vous étiez peu nombreux au début, mais je pense qu'Erwan fondamentalement.
Je voudrais juste, si vous m'autorisez un mot pour répondre à Erwan, vous le savez comme moi, lorsque l'on augmente les taux, on augmente les taux pour quelque part faire du mal à l'économie parce qu'on considère, qu'elle est trop dynamique et qu'il faut la ralentir.
Oui, c'est un refroidissement.
Je dis que malheureusement, c'est ce qui fait qu'elle va être obligée de bouger.
Refroidir l'économie alors qu'elle se prend déjà un premier choc sur l'augmentation, je ne sais pas quelle sera la proportion, mais avoir déjà un choc énergétique, c'est déjà faire du mal à l'économie. Augmenter les coûts, c'est lui faire encore plus de mal. C'est-à-dire, véritablement, c'est pousser la totalité de nos économies au bord du précipice, alors que parallèlement, on a une politique budgétaire comme on l'a eu durant la période inflationniste, où on essaye au contraire de la sauver. C'est-à-dire que vous avez deux leviers qui sont des autorités publiques, avec des légitimités différentes, mais sont toutes les deux publiques, qui agissent de manière totalement contradictoire. L'un pour refroidir encore plus l'économie et l'autre pour essayer de la sauver.
Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, j'explique juste le mécanisme. Et si, malheureusement, on se met à trier le bon grain de livret en termes d'inflation au niveau monétaire, on casse l'euro, on casse la zone euro.
Mais bien sûr.
Mais je pense que le problème ne se posera pas que pour la BCE, il se posera également pour la Banque Centrale Américaine.
Qui n'a pas les mêmes statuts que la BCE.
Et tu ne peux pas comparer... Moi, je suis complètement sur la ligne d'Erwan, je ne dis pas que c'est bien.
Et
on ne peut pas comparer la politique... On va venir à la dette. La politique budgétaire qui est discrétionnaire, en clair, je fais ce que je veux. On va y revenir. Moi, je ne crois pas une seconde que le ratio dette publique va baisser. Je pense que les économistes sont, pour le coup, de grands naïfs. Par contre, la politique monétaire, elle obéit à des règles. On peut le regretter. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On ne fait jamais d'exception à la règle, sauf quand la situation est elle-même exceptionnelle. Ça s'appelle la crise Covid. Mais là, ce n'est pas exceptionnel, ça s'appelle un choc d'offres. Ça peut être le pétrole, ça peut être d'autres choses. Si la BCE faisait ça, ce qu'elle gagnerait à court terme en termes, en effet, de croissance, elle le perdrait à long terme en crédibilité et elle ruinerait toute sa crédibilité. Donc, elle n'a pas le choix. Elle a un mandat. Son mandat est étroit. Il n'est pas écrit dans son mandat. Vous lutterez contre l'inflation en fonction des causes de l'inflation. Vous lutterez contre l'inflation. Point à la ligne. Donc, de toute façon, peu importe l'origine, peu importe la cause, elle est tenue par des règles. Donc, tu peux pas comparer, à mon sens, on va y revenir, politique budgétaire qui est complètement discrétionnaire. Où là, tu peux augmenter, baisser, faire ce que tu veux. En général, tu augmentes. Et la politique monétaire, où de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, non, moi, je partage complètement le point de vue de Gerwan. Mais je ne te dis pas que c'est bien. C'est un autre sujet.
Non, mais ce n'est pas totalement un autre sujet. Parce que ce n'est pas tout à fait un autre sujet. Parce que, globalement, si on accepte que l'absurdité va nous guider et gouverner la politique de la BEI, c'est juste admettre...
De la BCE.
C'est effectivement admettre que nous n'avons aucun pouvoir sur une instance publique dont les règles les connaissent.
Heureusement.
Mais excuse-moi.
Heureusement, Léonidas.
C'est 40 ans de science économique. Alors après, tu peux la critiquer. La science
heureusement
c'est
qu'on a aucun...
Rogoff, 1983, qui te dit imagine... la politique monétaire gérée par le politique, ça donne la même chose que la politique budgétaire dont je te rappelle, on est à 112% du PIB.
Hein. Il y a tous les travaux de Gordon Shapiro là-dessus aussi. Imaginons la Banque Centrale Européenne dans les mains de ceux qui créent des bonus réparation et des chèques bois. Mais on serait en train de payer notre baguette de pain avec des brouettes d'euros.
Mais
pardonnez-moi,
je ne suis pas en train de dire que la règle qui a fixé, comme vous le dites, le chemin étroit de la BCE est une règle absurde. Je suis en train de dire qu'elle a été fixée à une époque où on a globalement considéré que la paix était éternelle sur notre planète, comment dirais-je, angélique. Et comme elle est éternelle, il ne peut y avoir que des phénomènes économiques. Donc on n'a pas pris en considération le fait que, comme ça s'est passé avec l'Ukraine, et comme c'est en train de se passer avec le Moyen-Orient, il peut y avoir des chocs, géopolitiques qui peuvent avoir des effets sur le prix pétrolier. Et ce choc inflationniste énergétique, celui-là doit échapper à une espèce de dogme, c'est-à-dire dès que je vois un peu d'inflation, j'augmente mes taux. Là, c'est absurde.
Ah, c'est un autre sujet. Pardon, Léonidas, je t'interromps. Moi, je pense que la cible, c'est quoi? C'est 2% en inflation.
Oui, c'est toujours le
devrait être haussé. Je pense qu'on est sur de l'inflation structurelle pour 30 ans, pour la transition climatique.
Et maintenant, c'est 2%
pour mettons, je ne sais pas, je crois que c'était Blanchard. Hein, Blanchard qui avait réfléchi à ça en disant, passons peut-être, je ne sais pas, à 2,5 ou 3. Mais c'est un autre sujet. Mais tu te donnes une autre règle. Ça n'en reste pas moins une règle. Dire je mets 3% au lieu de 2%, il y a quand même l'idée, si je dis que c'est 3, ça ne sera pas 4. Et toi, tu nous dis finalement...
On n'est pas obligé de se condamner à être aveugle.
Laisse-moi juste terminer. C'est pas la même chose de dire j'ai 2 et en fait, je fais un peu ce que je veux, ou la personne te croit, et de dire je renonce à 2 et je mets 3.
Et je l'inscris dans le marbre, dans mes statuts.
C'est pas la même chose.
Mais pardonnez-moi, mais l'un et l'autre, je ne vois pas comment on peut sciemment se dire je veux être frappé de cécité et ne pas être capable d'avoir un minimum de discernement entre une inflation qui est due à un déséquilibre
offre demande. Tu as un gain à court terme et tu vas le payer à très long terme, ce sera plus crédible.
Ce débat, il est essentiel. Et Léonidas, la question que vous posez, je pense qu'en plus, elle est posée par plusieurs centaines de millions de personnes sur le continent européen. On a effectivement un outil monétaire et on s'interdit de l'utiliser. Ce qu'il faut se dire, c'est que, et je pense que la plupart des économistes, des monétaristes qu'on a dans notre paysage, qui sont en plus très brillants, mériteraient d'être plus invités et en tout cas de faire preuve de pédagogie là-dessus. La monnaie étant une convention, le problème,
bien
c'est
sûr.
Que cette convention-là, elle dépend exclusivement de la confiance. On n'a pas la stabilité que pourraient avoir, par exemple, les États-Unis avec une robustesse de leur monnaie qui nous permettrait de faire ce qu'on voudrait, parce que c'est clairement ce qu'ils font. Et on n'a pas la détention de la monnaie presque de manière domestique, comme peuvent l'avoir les Japonais, qui eux aussi font ce qu'ils veulent. On est le premier marché ouvert en Europe avec plus 27 pays, 27 politiques budgétaires. On n'a pas de policy mix parce qu'on s'est interdit d'aller jusqu'à ce que proposaient notamment la plupart des théoriciens de l'Union européenne de créer en fait tout simplement une politique monétaire adossée à la politique budgétaire. En tout cas, de faire la politique budgétaire à réaction de la politique monétaire. Donc, on se doit de fixer une contrainte qui est la politique monétaire qui ne bouge pas. Malheureusement, si jamais demain on commence à le bouger effectivement temporairement sur le pétrole, et je l'entends très bien, on peut se dire au mois de juin, nos entreprises vont souffrir, il faut les aider. Mais demain, ça pourrait être, il faut aider les panneaux photovoltaïques parce qu'on a un problème avec les Chinois. Après-demain, ça pourrait être on a un problème avec les moteurs, on a un problème avec le bâtiment. Et dans ces cas-là, on va avoir des demandes catégorielles qui seront légitimes, multipliées par les demandes nationales qui, elles aussi, sont légitimes.
Ingérable.
Donc, vous multipliez 200 secteurs fois 27 pays et vous obtenez le nombre de demandes qu'on va avoir tous les jours.
Je suis en désaccord
bouger.
Radical avec vous, Erwan. Je suis en accord total sur vos postulats et en désaccord total sur votre conclusion. vos postulats me semblent totalement justes et qu'il y ait des règles extrêmement strictes qui sont imposées à la BCE me semble très sain. En revanche, que ces règles très strictes interdisent d'avoir un minimum de discernement devant ce qui vient de se passer il y a 24 heures sous nos yeux à l'échelle planétaire.
Moi, je ne fais pas confiance au discernement humain qui... quand on parle de monnaie.
C'est bien
je
dommage.
Peux élargir le sujet. Allez-y, c'est marrant, on avait prévu d'en parler
deux
minutes.
Ça nous permet de parler de la dette.
Mais on va glisser vers la dette.
C'est un vrai sujet.
Dette, protectionnisme, politique monétaire, il y a un point commun dans notre débat. C'est le poids des intérêts particuliers.
Oui,
dès lors que vous rendez une institution indépendante, vous laissez un peu les lobbies, c'est-à-dire les intérêts particuliers, un petit peu en retrait. Le protectionnisme, on va y revenir, c'est quand même des histoires d'intérêts particuliers. Quand on vous dit que le CETA est un échec, quand on regarde les chiffres, c'est pas ça. Simplement, il y a la voix de certains qui portent plus que d'autres. D'accord? Donc ça, c'est assez important. La dette publique, revenons au même sujet. Vous avez des intérêts particuliers. L'intérêt des retraités n'est pas le même que l'intérêt des jeunes. Mm-hmm. Eh bien, on voit ce que ça donne. À la fin, ça donne 112% du PIB. Car j'y viens à ce sujet de la dette publique. Moi, je ne crois pas un instant, contrairement à mes collègues économistes, mais pas un instant que la dette publique, le ratio dette publique va baisser. C'est une douce illusion. Et pourquoi c'est une douce illusion? Parce qu'on n'a pas compris que pour un homme politique, la dette, ça n'est pas un problème. C'est une solution. Solution, attendez, laisse-moi juste finir. À trois sujets. D'abord,
j'aurai des bémols, hein, Emmanuel.
Je vais venir après au rôle des agences de notation.
Parce qu'on n'est pas les seuls en Europe à fonctionner avec l'euro. Il y a des ratios dette sur PIB qui ont reculé.
Juste si je peux.
Il y a de la politique dans tous les États. Il y a des élections.
Si je peux juste.
Oui.
Il y a au moins trois facteurs. Vous avez raison. D'abord, il y a le cycle électoral. Quand il y a des élections, en général, je fais de la dépense publique. Vous me direz, il y a aussi des élections en Allemagne. J'en conviens.
Secondement, donc, 25 milliards d'économies en 2025.
Secondement, la polarisation, et tout ça, je ne l'ai pas inventé, ça, on le sait en économie depuis 40 ans, il y a un courant qui s'appelle l'économie politique du déficit public, qui vous dit plus la vie politique est polarisée. Or en France, et ça c'est une différence avec l'Allemagne, il n'y a pas consensus sur l'usage de la dépense publique. Grosso modo, quand vous êtes de gauche, c'est plutôt pour de la dépense sociale, et quand vous êtes entre guillemets de droite, on est plutôt sur de l'investissement, etc. Donc il y a un conflit, si vous avez un conflit, très fort entre gauche et droite, vous avez intérêt à faire de la dette. Pourquoi? Si vous perdez les élections, et c'est pour la dette, elle n'est pas pour vous, elle est pour le suivant. Donc vous voyez, il y a tout un mécanisme, j'ai fait une chronique là-dessus, hein, il y a tout un plusieurs mécanismes politiques qui vous montrent que si vous êtes un décideur politique, mais vous avez intérêt à faire de la dette. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de limite à la dette. Il y a des forces de rappel. Laisse-moi juste finir. Il y a des forces de rappel. Non. Première force de rappel, l'Europe. Pacte de stabilité, bon, on voit ce que ça donne.
J'avais rappelé la dernière procédure pour déficit excessif remontée à 2009 et elle s'est refermée en 2018.
Donc le pacte de stabilité.
Ça a duré presque 10 ans, personne ne s'en est rendu compte.
Donc le pacte de stabilité, ça n'est pas une corde de rappel. Rendre indépendante la politique budgétaire, là on est dans le doux rêve. Le budget, c'est de l'ordre du politique. Alors on a le Haut Conseil des Finances Publiques, il faut s'en féliciter, on lui demande son opinion et après on fait ce qu'on veut.
Oui, donc, il est consultatif à le Haut Conseil.
Donc finalement, il ne reste plus qu'une force de rappel. Parmi, et c'est la chronique que je vais pas faire paraître dans l'opinion, c'est en réalité les agences de notation. Alors, il y a une étude très intéressante qui montre que les agences de notation n'ont pas un impact sur le taux d'intérêt. Elles ont un impact sur le vote.
Mais je suis...
Pardon, je peux juste terminer.
Mais, pense que la démonstration est allée loin.
Non, laisse finir. Bon.
Parce que il y a un papier... Alors, tu peux critiquer les papiers de recherche.
C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs à propos de cette chronique.
Il y a un papier de recherche sur 27 pays d'Europe 2000-2017 qui te montre que quand vous êtes dégradé, ça n'a pas un impact tellement sur le taux d'intérêt. D'ailleurs, la France, si elle est dégradée, ça n'aura quasiment pas d'impact. Par contre, ça a un impact sur le vote. Une dégradation fait que les personnes se disent « si on a été dégradé, c'est que le gouvernement est mauvais. S'il est mauvais, je vais voter pour l'autre ». Donc paradoxalement, on pourrait presque dire, si on était un peu provoquant, les agences de notation viennent limiter la tentation du décideur politique naturel de faire de la dette publique. Moi, je pense que fondamentalement,
j'ai envie de vous dire que on fait de la dette. J'y crois moins en France. Il y a une phrase que j'ai retenue, la phrase de l'année pour moi de Bruno Le Maire, c'est « la dette, ça n'intéresse personne ». Les Français, ça les intéresse pas, la dette. Les agences de notation, ce qu'elles vont dire, ça va intéresser une tête d'épingle de l'opinion publique, ça va passer
complètement inaperçu. C'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est la sanction.
Oui.
Vous êtes sanctionné.
Je voudrais répondre à ce que vient de dire Emmanuel Combes, mais assez rapidement.
Ça va de marquer une pause.
Mais assez rapidement sur ce point, parce que je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée que réfléchir à une inflexion de l'existence sur la BCE, c'est ouvrir la boîte de Pandore à toute espèce de débat sur la politique monétaire. J'ai dit simplement que la politique monétaire en temps de paix et la politique monétaire en temps de guerre, c'est pas la même. Que nous avons eu deux chocs sous les yeux, l'Ukraine et le deuxième aujourd'hui, c'est le conflit au Moyen-Orient. Ce qui peut impacter nos économies dans une situation de guerre, c'est autre chose que les tensions économiques sur lesquelles on peut peser avec les taux d'intérêt. Et donc, vous imaginez que l'on agit sur les phénomènes qui sont les ondes de choc d'un moment de guerre en utilisant le même instrument que celui qu'on utilise lorsqu'il y a des tensions sur les marchés économiques, c'est juste un moment d'absurdité. Et corriger cette absurdité, c'est pas ouvrir la boîte de Pandore. Je ne suis pas pour ouvrir la boîte de Pandore, mais je ne suis pas pour autant favorable à une politique, en l'occurrence monétaire, qui devient absurde lorsqu'on utilise le mauvais remède par rapport à un phénomène auquel on assiste, qui se traduit par des tensions inflationnistes.
C'est que c'est binaire, c'est règle ou décision. On peut pas avoir d'entre
deux. Il y a une différence entre le Covid et les guerres. Malheureusement, les guerres sont assez régulières.
Non,
Covid est exceptionnel.
Il n'y a pas eu tellement de situations de guerre qui ont impacté nos économies d'un point de vue inflationniste. On en a eu deux. On va voir si celle que l'on annonce aujourd'hui va se confirmer. Mais celle avec l'Ukraine est une situation qui est tellement exceptionnelle que d'avoir utilisé les mêmes armes que d'habitude pour lutter contre l'inflation.
On marque une pause. Ça fait pas mal. Alors, Nathalie Janson, que vous connaissez, grande spécialiste des politiques monétaires, elle dit merci à Juan et Emmanuel. Donc, elle n'est pas dans le camp de Léonidas pour défendre les actions de la BCE.
Pas de problème à rester stable.
Et elle ajoute, il faut arrêter de penser que l'inflation apportée n'est pas de l'inflation, c'est de l'inflation.
Bien sûr.
Après, j'aime bien aussi la remarque de Yann, qui dit, si la réaction de la... Les réactions de la BCE sont aussi basiquement mécaniques, correspondant à des règles. Pourquoi avoir tout un board avec des négociations
C'est justement pour qu'elles soient bien appliquées. Mais c'est une question.
On marque une pause. On retournera un instant sur cette histoire de dette, parce que vous ne croyez pas qu'on va baisser le ratio de dette sur PIB. Emmanuel Macron a renoncé à le baisser.
Oui,
c'est encore plus simple. Voilà.
C'est logique.
Donc, il a renoncé à le baisser et on continue à lui dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Revirement, est-ce que c'est un renoncement, un revirement sur la dette? Mais je pense qu'on n'en est pas au premier des revirements, ni au dernier concernant la gestion de nos finances publiques. Ils ont quand même l'air un peu morts de faim depuis un mois. Quand on va chercher 10 milliards par décret et qu'on filoute dans tous les sens pour habiller 10 nouveaux milliards d'économies en évitant la loi de finances rectificative parce que le président de la République n'en veut pas, avec des mécanismes quand même qui sont pas malhonnêtes. Enfin bon...
On en parlera.
Ok. Et puis on parlera du CETA et puis on parlera de la norme européenne de sécurité cloud.
De cybersécurité.
De cybersécurité, vous m'apprendrez tout ça tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Et de retour avec Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School qui a coécrit le transport aérien à la découverte. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Argument, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et Juan Tizon, directeur des études de l'Institut Sapiens qui a coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Édition. On referme, on continue sur la dette. Alors j'ai une auditrice qui dit non, c'est pas vrai que la dette n'intéresse personne. Je pense qu'elle n'intéresse pas grand monde. Mais en tout cas, on a renoncé à l'idée qu'on allait désendetter le pays à l'horizon 2027. Ouais.
Je dois dire, pardon, sur cette question de la dette, il y a quelque chose qui m'étonne. Hein. Je sais pas pour être pour l'un ou pour l'autre. C'est que à partir du moment où nous avons un taux d'emploi qui remonte, un taux de chômage qui baisse, on devrait...
Il augmente le taux dans le chômage, malheureusement.
Oui. Bon, là, il y a un petit retournement et on ne sait pas
si... On était à 7,1, on est à 7,4.
7,5.
Donc, en tous les cas, on a à peu près créé 1 million d'emplois, grosso modo, 1,4 million. Bon, en tout cas, cette courbe-là a été, durant des mois, tout à fait positive. En bonne logique, ça devrait amener...
C'est politique.
En très bonne logique.
En bonne logique économique.
On reste le troisième pays, le troisième pire pays de l'Union européenne.
Non, mais au-delà, pardonnez-moi, juste pour aller au bout de mon raisonnement.
Troisième en termes de taux de chômage.
Troisième, en partant de la fin.
Oui, j'ai bien compris. Oui.
S'il y a plus d'emplois...
On a 4 points sous la moyenne, quand même.
S'il y a plus d'emplois, il devrait y avoir plus de croissance. S'il y a plus de croissance, on devrait avoir un accompagnement...
Vous allez nous amener sur le terrain de la productivité.
Mais effectivement, avoir...
Tant d'emplois créés, c'est probablement notamment à cause des pertes de gains de productivité.
Tout à fait.
C'est la mauvaise raison de la baisse du chômage.
Mais en l'occurrence, c'est ce qui est un peu fascinant. C'est la mauvaise surprise de la politique économique qui a été menée, qui est globalement une politique économique que l'on peut, ici, autour de la table, approuver. On a poussé tout le monde vers le travail, et tant mieux, et j'espère qu'on va continuer. Ça devrait globalement... amener plus de croissance, amener davantage de recettes dans les caisses de l'État, amener à accompagner moins socialement les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et donc tout ça devrait faire reculer mécaniquement notre dette de manière structurelle. Et ça ne le fait pas. Et je dois dire quelque part, c'est comme si tout le pari de la politique économique du gouvernement n'arrivait pas au résultat escompté. Non. Et ça, je dois dire, c'est une surprise que je veux bien partager avec le gouvernement dont je trouvais
que la stratégie... Si je résume ce que vous me dites, l'effet vertueux de 10 ans de politique de l'offre aurait dû à terme se voir dans le ratio dette sur PIB.
Absolument. Parce que il ne se voit pas. Bon. Et je dois dire que là, il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Et tu as la réponse dans mon analyse, qui est l'économie politique de la dette. Quelle est l'incitation quand tu fais des... Alors, tu vas faire des efforts, tu vas diminuer tes déficits et tu vas donner un bon bilan au successeur pour un peu que ton successeur soit ton adversaire politique. Si tu as de fortes chances de perdre l'élection, tu as même plutôt intérêt à faire la vertu.
Je veux comprendre économiquement pourquoi ça ne fait pas...
Tu pars du principe que le décideur politique est altruiste, il fait de la politique. Enfin, c'est honorable, je ne suis pas en train de désinguer les politiques. L'homme politique, son horizon, c'est l'élection. C'est pour ça que toutes ces thèses qui consistent à dire on va faire des programmes, nous économistes, nous recommandons des programmes pluriannuels de réduction à la dépense publique. Quel homme politique s'inscrit dans cette logique? Je suis désolé de le dire, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Un homme de ça est documenté depuis 50 ans.
Je voudrais, Emmanuel, comprendre pourquoi...
Tu n'as pas d'incitation à faire de la réduction des déficits budgétaires, sauf sous la contrainte. Donc, si tu es vertueux...
Non, pardon, Emmanuel, c'est un autre sujet. Le fait de réduire la dépense publique qui est une priorité que nous partageons, et il n'y en a pas eu suffisamment. En revanche, le fait d'avoir davantage de travail dans le pays aurait dû amener davantage de recettes et aurait dû mécaniquement...
Si ces recettes, tu les dépenses. T'as plus de recettes, mais tu les dépenses aussi, car tu as une incitation naturelle à faire de la dépense publique. Toute l'hypothèse de départ de l'école des choix publics, c'est de dire l'incitation de l'homme politique, c'est de faire de la dépense publique pour des raisons électorales. Et tu me réponds, bah non, s'il est vertueux, ça devrait baisser. Mais pourquoi serait-il vertueux? Son but, c'est d'être réélu.
Parce qu'on a créé un million d'emplois, et ce million d'emplois aurait dû créer...
Il y a deux choses là-dessus. Pour compléter le très bon papier d'ailleurs qu'avait écrit Emmanuel sur le sujet, il y a, regardez, au 1er février, on a augmenté de 14 milliards les dépenses de retraite. Derrière, on est en train de rogner un petit peu partout, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la rénovation thermique des bâtiments, etc. Enfin, on diminue l'augmentation, mais donc du coup on se dit il vaut mieux avoir effectivement des dépenses qui soient à effet immédiat, et quand c'est immédiat c'est le 9 juin, plutôt que des choses effectivement sur 5 à 10 ans. Baisser les dépenses de formation, moi je trouve que c'est profondément scandaleux, les dépenses de recherche c'est pareil, parce que c'est de la croissance pour les 5, 10, 15, 50 prochaines années. Ils votent pas les enfants, c'est un vrai problème qu'il y a aussi. La question de la productivité aujourd'hui, et je pense que ça devrait être au cœur justement de notre réflexion économique, on a créé effectivement 1,4 million d'emplois, mais ça se voit pas aujourd'hui notre croissance. On a une croissance qui est complètement atone, qui reste supérieure à celle de certains de nos voisins, mais qui reste complètement en deçà de ce qu'on pourrait envisager. Je pense que cette question de la productivité, on l'a pas suffisamment prise au sérieux. Et moi, une des causes, nous, on l'a renseigné, on a identifié 8 causes différentes.
Je me souviens, on les avait détaillées une fois.
Pas le refaire là, mais pour moi, la cause la plus importante, c'est la formation. Il y a une baisse de 18% des entrées en formation des actifs depuis 2018. 18% des entrées en actifs en moins. Sachant qu'on était un des pires pays d'Europe avant, et donc du coup on fait encore moins que notre niveau le plus bas. La raison elle est laquelle? On a fait une très très bonne réforme, la réforme Pénicaud, qui a été faite notamment pour les outsiders. Elle a fait rentrer énormément de personnes dans la formation professionnelle, mais elle n'a pas mis à jour les compétences des personnes qui sont aujourd'hui en emploi. Or, dans une période de mutation technologique absolument incroyable, où on a besoin de se former, on a besoin, ne serait-ce que pour rester en poste, vous avez des requalifications qui s'opèrent aujourd'hui, on a besoin justement d'avoir cette mise à jour qui se fait. Et des fois, les études économiques montrent, et économétriques montrent, qu'une formation de 4 heures par semaine, réalisée 15 jours par an, ça permettait d'augmenter la productivité du salarié de 1%, ce qui est quand même pas neutre, hein, quand on regarde un point de vue macro. Et la moitié de cette augmentation de productivité est captée par le salarié en augmentation directe de salaire. Donc là, on résout deux problèmes structurels qui sont la croissance et le pouvoir d'achat, juste avec 4 heures de formation. Le problème, c'est que là, on est en train de chercher de faire les fonds de tiroir, parce que justement on a décidé d'augmenter de 14 milliards, et encore une fois c'est pas de l'anti-retraité de primaire, hein, d'une haine de retraité ou quoi que ce soit, non, c'est juste de se poser la question, comme le disait Emmanuel avant, chaque euro qu'on investit aujourd'hui, où est-ce qu'il pourrait être le mieux utilisé? Je persiste à croire que mettre 14 milliards d'euros dans une population qui a un taux d'épargne de 28%, encore une fois en moyenne, effectivement, il fallait faire un geste pour les petites retraites, mais quand vous gagnez 6 000 euros par mois, qu'en plus vous avez un taux de CSG inférieur à l'aide-soignant qui est à 1300 euros, je pense qu'une augmentation de 5%, c'était peut-être pas ce qu'il y avait à faire, qui avait plus de pertinent d'un point de vue économique. Là, je pense que c'était de l'achat de voix. C'était de l'achat de voix. Et ça devrait peut-être être. Je pose la question de manière un petit peu humoristique, mais peut-être qu'on pourrait même le rajouter au compte de campagne des partis, de tous les partis qui l'ont. Non, mais de tous les partis qui l'ont soutenu, parce que toute la classe politique l'a soutenu. Et pour finir là-dessus, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans justement grand plan sur la formation professionnelle pour les actifs et aussi pour tous les demandeurs d'emploi. On est en train de créer avec France Travail, on est en train de mettre 1,6 million d'allocataires du RSA. Quand vous prenez les 1,2 million d'allocataires du RSA qui ne sont pas encore en emploi, plus les 300 000 personnes qui sont justement allocataires de la ASS, ces personnes-là vont grossir les rangs du chômage. Donc mécaniquement, on va avoir une hausse du niveau de chômage qui va atteindre quasiment 9% à la fin du quinquennat. Donc politiquement, là pour le coup, il y a une vraie incitation, si on veut avoir un héritage, enfin laisser un bon héritage, qui est de se dire, il faut peut-être que ces personnes-là rentrent très rapidement en emploi. Comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer ces personnes-là en emploi ? Il faut de l'accompagnement presque individuel. Une étude a été publiée par la DARES au mois de décembre dernier qui montre que 3 allocataires du RSA sur 10 qui étaient allocataires du RSA déjà en 2010 le sont encore. C'est-à-dire que vous avez 30% de ces 1,5 million de personnes qui sont en inactivité depuis plus de 10 ans. Ces personnes-là ne sont pas par choix. Ces personnes-là ne sont pas par choix. Le problème, c'est que ces personnes-là, vous ne pouvez pas leur donner un emploi tout de suite. Vous ne pouvez pas leur dire, on cherche des plongeurs, on cherche des cuisiniers dans le resto d'en bas. Il faut y aller. Non. Il faut un travail de resocialisation. Il faut un travail pour leur redonner confiance en eux et leur réapprendre les compétences de base. Et ça ne se fera pas sans moyens. Et donc, la vraie politique publique consisterait à dire, je prends effectivement là où j'ai besoin de prendre. Donc, c'est sur la classe la plus riche, qui sont les retraités. Et je mets le paquet sur la formation. Si jamais je n'arrive pas à faire ça, malheureusement, non seulement la dette publique sera très élevée, mais le taux de chômage sera très fort aussi. Et je terminerai sur un dernier point. Ce qui différencie l'homme politique de l'homme d'État, l'homme politique pense à la prochaine génération, à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Gerhard Schröder, je me rappelle quand on peut penser ce qu'on veut de lui après sa reconversion post-gouvernementale, mais il a accepté justement de perdre son élection, de perdre sa réélection pour sauver son pays. Je pense que certains hommes politiques seraient peut-être avisés de faire la même chose aujourd'hui.
Emmanuel Combe.
Vraiment, pour clore le sujet, je suis étonné que dans un pays comme la France, où quand même la hausse de la dette publique du ratio est continue, par escalier, mais continue depuis 50 ans, il n'y ait pas une personne qui s'est dit à un moment donné, c'est peut-être pas mal d'aller regarder ce mouvement de l'économie politique de la dette qui vous explique ça depuis 50 ans. L'idée que un pays naturellement, et tant mieux, c'est une grande démocratie, c'est le jeu démocratique, est incité naturellement à faire de la dette publique, et finalement il n'y a que des forces de rappel extérieures qui peuvent la contraindre, dont les agences de notation.
Bon, on verra. Les premiers avis d'agences de notation, c'est le 26 avril avec Fitch et Moody's.
Oui, je crois que
Standard & Poor's sera le 31 mai. Je vais passer la parole à Leonidas qui va nous éclairer sur l'EUCS. Alors moi, j'ai appelé ça la future norme européenne de sécurité cloud qui vise la souveraineté numérique.
C'est la suite. Mais c'est un très bon résumé.
Et donc la commission débat aujourd'hui.
Oui, parce que il y a en fait l'enjeu, c'est une négociation entre les États-Unis et l'Europe sur les normes de cybersécurité autour des données qui sont dans le cloud. Et en l'occurrence, comment est-ce que l'on fait? Comment est-ce que l'on traite ces données? Et pour les États-Unis, récemment, il y a eu deux décisions qui ont toutes les deux quelques semaines ou quelques mois. D'abord, la prolongation du FISA, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui a été décidé par Joe Biden et qui donne davantage de pouvoir à ses services de sécurité pour aller regarder toutes les données personnelles, même lorsque elles sont présentes dans d'autres pays, avec cette règle de l'extraterritorialité des pouvoirs qui sont donnés aux administrations américaines. Ça veut dire que lorsque on met dans un cloud qui est un cloud américain les données sensibles des citoyens européens, eh bien, elles peuvent être regardées à n'importe quel moment si les États-Unis considèrent que leur sécurité est en jeu. Et puis, deuxième élément pour lequel Joe Biden a pris une décision qui date d'il y a quelques semaines à peine, c'est un executive order qui interdit désormais radicalement les transferts de données des Américains vers d'autres pays parce que l'on est rentré dans un moment de tension géostratégique et donc de manière extrêmement responsable, le président américain dit nos données de nos citoyens, on les préserve. Et dans ce même temps, les Européens devraient avoir quelque chose de symétrique.
Mais j'ai envie de vous dire que basiquement et naïvement, j'imagine qu'on retrouve certains de ces éléments dans ce projet qui va être débattu par
la Commission ? Eh bien non, vous avez un rapport qui a été rendu le 22 mars dernier et qui est débattu aujourd'hui au sein de l'Union européenne, pour lequel d'ailleurs le CIGREF, qui rassemble les grandes entreprises et grandes administrations utilisatrices de services numériques, a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière, et l'Open Internet Project, dont que je dirige, lui emboîte le pas aujourd'hui, pour tirer cette sonnette d'alarme, parce que on a retiré toute exigence de souveraineté sur les données européennes par rapport à tout ce niveau de sécurité maximale et élevé. Donc, il s'agit de données sensibles, les données de santé, les données de sécurité, les données bancaires. Toutes ces données sensibles devraient avoir, en bonne logique, une règle de souveraineté imposée.
Et c'est ce qui est indiqué dans l'IA Act européen. Eh bien, on a mis différents niveaux de surveillance et de sensibilité des données jusqu'à un niveau 3 qui est, je ne sais plus quel est l'adjectif, mais intouchable.
Oui, mais vous avez raison par rapport aux exigences que nous imposons à nos propres entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de voir quels sont les degrés de sécurité pour les acteurs européens qui veulent se positionner, eh bien, on les met à l'échelle maximale. Et là, lorsqu'il s'agit d'imposer des règles de sécurité de même niveau pour éviter les transferts de données et l'utilisation de nos données par les États-Unis, parce que principalement les acteurs américains dont il s'agit, on a totalement baissé la garde.
Et donc vous me dites qu'on est en train d'abdiquer une fois de plus.
D'abdiquer totalement et d'abdiquer à un moment qui nous ramène à nos premiers sujets de géostratégie. On a vu disparaître cette exigence au même moment que se nouaient les accords autour de l'utilisation du gaz américain pour remplacer le gaz russe. On ne peut pas sur un moment de géostratégie comme celui-ci, considérer que nous passons des accords, j'allais presque dire, dans le dos de tous les citoyens européens, dans une espèce de grande négociation globale entre l'énergie, les données et l'armement, en donnant la totalité des clés de nos données aux Américains. C'est un moment d'alerte. Ça se discute aujourd'hui et il est temps qu'on se ressaisisse parce que, en l'occurrence, c'était dans la feuille de route de la Commission européenne. La disparition de ces exigences était aujourd'hui une véritable trahison en race campagne de ce qui était attendu par l'ensemble des acteurs et ensemble des acteurs officiellement publics comme privés.
Si je vous suis bien, ça signifie qu'une fois de plus, les Américains ont le leadership et vont le garder.
Bien, écoutez, une fois de plus, voilà. Il faut tirer la sonnette d'alarme et continuer à se battre.
Sujet, moi, je le connais pas dans sa complexité, le sujet de cette
EUCS.
J'avais l'impression que l'IA Act était déjà effectivement plus un bâton dans les roues des entreprises européennes qu'une véritable protection de la souveraineté de ce qui se passe en Europe par rapport aux États-Unis. Vous voulez réagir sur le fait que c'est les Américains qui ont le dernier mot?
Oui, je voulais élargir au-delà de la régulation, ce qui est assez impressionnant. Ce qui est assez impressionnant sur l'IA générative, hein. C'est qu'en fait, on voit que déjà, quand vous prenez la chaîne de valeur, qu'il y a les puces, le cloud, les données, et puis les applications, vous prenez les trois premiers maillons de la chaîne de valeur, bah, c'est un monopole hein, pour les puces, Nvidia, et ensuite, ce sont des oligopoles, essentiellement américains. Et alors, donc, il y a une grande différence, je trouve, entre cette nouvelle bataille technologique de l'IA générative et celle qui a eu lieu il y a 30 ans, 40 ans, c'est qu'à l'époque, Google, Amazon étaient des nouveaux entrants, hein. Aujourd'hui, on démarre sur une nouvelle technologie déjà avec des entreprises extrêmement installées. Ce qui veut dire que l'Europe, finalement, il lui reste presque plus qu'une chose, c'est la régulation. Ou alors, encore des espaces de concurrence en aval dans les applications. Puisque l'IA générative, il va falloir développer des applications très spécialisées en droit, en santé. Mais on a déjà, me semble-t-il, un peu perdu la bataille sur l'IA générative en termes de langage, de grands modèles de langage. C'est essentiellement.
On a des entreprises exceptionnelles en la matière.
En aval. Je parle pas de l'aval, je parle de l'amont. Tu regardes les grands modèles de langage, pardon, ChatGPT, c'est pas européen, Gemini, c'est pas européen, Anthropic, ça n'est pas européen. Par contre, tu as raison, quand on va en aval, là, il y a peut-être un foisonnement, ce qui fait que les autorités de concurrence sont très attentives à tout ce qui va se passer dans les applications et notamment les accords qui vont pouvoir être noués entre les géants en amont et ces petites entreprises en aval. Et par exemple, l'autorité anglaise publie des travaux très intéressants sur les risques de prise de participation dans ces petites entreprises, justement, qui, elles, viennent disrupter le marché avec des nouveaux modèles économiques. Mais pour rejoindre sur ce que disait, rejoindre Léonidas sur le point, on voit à nouveau que sur cette bataille-là de l'IA générative, ben, on est quand même en retard. Et on est en retard pour une bonne raison. Enfin, on n'en parlera pas ce matin, mais il y a un superbe rapport dont personne n'a parlé, qui est sorti il y a 4 jours de Jean Tirole, qui vous dit, l'Europe est très bonne dans le mid-tech. le prix Nobel qui vous dit ça. On est mauvais dans la high-tech. Ils regardent les brevets. Combien de brevets on dépose dans les logiciels? Combien de brevets on dépose dans l'IA? Dans les biotech? On n'est pas bon. On n'est pas bon. Parce qu'en fait, on fait de l'innovation incrémentale en Europe. Il vous dit, là, on innove le plus. Pardon, j'ai le plus grand respect pour l'industrie automobile. C'est l'industrie automobile. On améliore ce que l'on sait faire. On ne sait pas faire de la disruption, on ne sait pas faire d'innovation radicale, on met pas les moyens. Bah à la fin des fins, quand on ne sait pas faire d'innovation radicale ou très peu, eh bien vous n'avez pas d'IA générative, etc. Donc tout ça a quand même des causes profondes. Et la cause profonde, c'est d'abord insuffisance de R&D privée, mais au-delà du montant de la R&D, c'est la destination de la R&D. Et Tirol vous dit finalement, on explore des choses qu'on connaît déjà.
Oui.
Ce qu'il appelle la dépendance au sentier. Mmh. On va continuer à améliorer nos technologies automobiles, et tant mieux.
C'est vrai.
Mais tous les euros que vous investissez là, vous les mettez pas dans des startups,
dès qu'on
d'IA.
Un innovant, on vous dit.
Et moi, ce qui me. Alors, le problème, c'est que. Alors, vous lirez.
Oui, un tout petit peu.
Parce que je vais revenir sur. On dit toujours l'Amérique innove, l'Europe réglemente.
Innove radicalement.
Radicalement, et l'Europe réglemente. Mais moi, à chaque fois que l'Europe réglemente,
on
et que j'ai sur ce plateau des connaisseurs dans la complexité de ces réglementations, ils ont généralement toujours un avis opposé à la réglementation que les Européens préparent. Que ce soit vous, aujourd'hui, Léonidas Kologiropoulos, ou André Lezecroupe-Pietri, qui connaît par cœur ces sujets d'IA, et qui dit, fausse route, fausse route, fausse route, fausse route, mauvaise décision, mauvaise réglementation, la bataille est perdue ou elle est en passe de l'être. C'est toujours la même. Alors je me dis, mais que font ces gens à la Commission de Bruxelles? Sont-ils complètement aveugles? Sont-ils complètement soumis? Je ne sais pas.
Juste un point pour prolonger ce qu'il y a dit, notamment sur les automobiles. On a la prochaine innovation, c'est celle de le véhicule autonome. En tout cas, c'est là où il va y avoir un bascule total de la valeur de la voiture, où 80% de la valeur de la voiture, ce sera le logiciel embarqué. Et le reste, du coup, sera marginal dans le prix de la voiture. On a eu les premiers brevets qui ont été déposés sur la véhicule autonome en Europe, quand même, notamment en France. Vous avez quand même pas quelques ingénieurs qui sont partis il y a quelques années travailler chez Navia. Le problème, c'est que cette technologie-là, quand on a voulu la tester, ça se teste sur route ouverte ou route fermée. En tout cas, ça se teste grandeur nature. Ça ne peut pas se tester en laboratoire. La plupart des politiques, la plupart des autorités, des administrations ont dit non, on ne vous autorise pas des tests parce que justement, ça peut être dangereux. Si demain, on a un accident, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est trouvé que les États-Unis ont eu une totale autre stratégie, notamment la Californie, qui, elle, a ouvert plusieurs millions de kilomètres de route en circuit. Donc, c'est des petites routes, mais qui permettent de rouler plusieurs millions de kilomètres dessus et qui ont dit allez-y, vous faites tous les tests que vous voulez. Et donc, du coup, ils ont attiré énormément d'ingénieurs. Et de l'autre côté, vous avez la stratégie chinoise qui a dit allez-y, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez sur route ouverte et s'il y a des accidents, on gère. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, le problème, c'est que nous, on est souvent, et quand vous regardez la plupart des innovateurs, je parle bien des innovateurs, des ingénieurs au niveau mondial, sont souvent de nationalité européenne et très souvent française, mais ils s'exportent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en France, on a une régulation ex ante qui est extrêmement forte, alors que d'autres pays ont une régulation ex post avec la logique de bac à sable. En disant, vous avez une très bonne idée, testez-la. On va par contre encadrer le test et encadrer l'expérimentation. Et après, on verra. On a quand même mis un droit à l'expérimentation dans la Constitution qui permet à toute entité locale de pouvoir déroger au droit en vigueur pour une période test pour expérimenter une certaine technologie. On ne l'utilise jamais. C'est quand même dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de technologies sur l'IA, sur les véhicules autonomes, sur les batteries, sur la cybersécurité qu'on aurait pu tester de manière in vitro au niveau local, encadré, mais en tout cas en disant aux ingénieurs et aux scientifiques, amusez-vous. Amusez-vous, faites ce que vous avez à faire en sécurité et on verra après. Et
Emmanuel Combes, allez-y.
Nicolas, je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a aussi un problème de gouvernance de la politique de recherche en Europe et c'est ce que montre aussi Tirole. Il dit en fait trop de, entre guillemets, fonctionnaires et pas assez de scientifiques et il compare avec la DARPA, enfin les programmes américains, mais c'est radicalement différent. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'innovation radicale? C'est de l'expertise. Moi, je suis incapable de dire.
C'est une des grandes idées de Philippe Aguillon.
Voilà, moi, je suis incapable de dire si telle technologie est porteuse ou pas. Je suis pas scientifique. Et donc, aux États-Unis, on a un poids du scientifique dans la décision et notamment dans le suivi des programmes, parce que le grand enjeu c'est de savoir arrêter aussi un programme quand ça marche pas. Il faut. Et Tirole vous montre bien qu'en Europe on a, comme vous le disiez Nicolas, une approche plus entre guillemets fonctionnaire. Donc il y a aussi non seulement on dépense pas assez, on dépense pas forcément dans les bonnes technologies. On fait de l'innovation. Il faut pas dire qu'on innove pas en Europe. Oui, on innove de manière incrémentale et peu radicale. Mais surtout on gère mal la gouvernance. Il faut faire plus confiance à ceux qui savent. Et ceux qui savent, pardon, ce sont les experts. Les experts, ce sont les scientifiques. Et quand vous mélangez tout ça, Tirole arrive à une conclusion que je trouve très dure. Il dit l'Europe est le royaume des mid-tech. C'est-à-dire, on est bon, mais on n'est pas dans la disruption. Or, qu'est-ce qui pousse la croissance? Et ça rejoint un peu ce que dit aussi Erwan sur la productivité. À la fin des fins, c'est quand même l'innovation radicale. C'est-à-dire les nouveaux entrants. C'est les nouveaux entrants qui tirent la productivité. Et en Europe, d'ailleurs, les programmes de recherche sont plutôt dédiés aux PME. Mais c'est pas parce qu'on est une PME qu'on est un nouvel entrant. on peut être une ancienne PME. Les gains de productivité, ça c'est démontré enfin
économiquement. Non, mais d'ailleurs les gains de productivité américains sont là.
Mais c'est les nouveaux entrants, c'est ça qui est important. Voilà, c'est pas les insiders.
Même d'ailleurs les prévisions.
C'est pas une sorte de taille. C'est pas la PME qui est productive.
Je sais pas sur quoi vous voulez.
Juste un tout petit point de discours avant de sur la DARPA, il y a aussi un truc qu'on avait fait une étude sur le sujet. Ils prennent la plus dans leur comité de sélection, ils ne prennent que les projets qui ont 97% minimum de taux d'échec.
Échec.
En théorie. Entre 97 et 98%. C'est-à-dire que tout le reste est confié au privé et la puissance publique, en tout cas parapublique, s'occupe que des projets qui sont définitivement presque aucune chance de sortir. Vous en faites 1000 et vous allez en sortir que 3 ou 4, mais sur les 3 ou 4 que vous sortez, ça donne le vaccin Covid, ça donne Nvidia, ça donne les micropuces, etc. C'est aussi une logique d'aversion au risque à changer.
En tous les cas, vous aurez noté, puisque vous vous intéressez à la voiture autonome, que les dizaines de milliards qui ont été investis aux États-Unis sur la voiture autonome n'ont débouché sur strictement rien.
Non, c'est faux.
Non, ça ne fonctionne pas. Et pour celles qui fonctionnent.
Ils sont prêts. Waymo est prêt.
Et pour celles qui fonctionnent, ça fonctionne avec quasiment une sorte d'accompagnement comme des drones. Dès que vous avez une voiture qui s'arrête, ce sont des équipes, comme on faisait avant, la relation client avec des gens qui sont en back-office pour prendre la relève. Et qui prennent la commande de la voiture pour la sortir d'un moment d'impasse.
Waymo est prêt depuis 18 mois. Le seul truc qu'ils ont peur, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont prêts au niveau 5, hein, donc le niveau ultime. Il y a toujours une supervision à distance au cas où, heureusement. Et là où ils ont peur, c'est qu'ils se disent, de toute façon, le problème, c'est qu'on a du mal à modéliser le comportement d'autres automobilistes de manière sûre à 100%. Si demain, on a un accident de n'importe qui se fait avoir par une voiture autonome, ça fait le tour du monde. Et dans ces cas-là, on prend 10 ans dans la vue sur la technologie. Donc, ils attendent d'avoir la certitude la plus fine possible, mais les véhicules sont prêts. Waymo, c'est la filiale de Google qui s'occupe de ça. Ils ont réalisé plus de 50 millions de kilomètres de tests sur route ouverte avec un taux d'échec de moins de 0,1%. Ce qui est quand même assez, ce qui en dit, le premier constructeur derrière est à plus de 5% d'échec. Donc c'est la preuve aussi que les voitures autonomes demain seront faites non pas par des historiques des véhicules, mais bien par des nouveaux entrants sur cette technologie-là.
Moi, ce qui me désole, Léonidas, c'est que ces histoires de régulation en Europe, chaque fois que j'ai des experts pour m'en parler qui connaissent le sujet, ils me disent qu'on fait fausse route.
Non.
Alors, je dois dire que
vous êtes pas d'accord,
non, je suis pas totalement d'accord du tout.
Et d'accord avec quoi?
Non, je suis pas d'accord avec l'idée que c'est systématiquement mauvais. En l'occurrence, sur la protection des données, nous avons amené notre industrie à être en pointe sur la capacité à imaginer des systèmes dans lesquels la captation des données n'est pas la condition à une économie et à une rationalité, j'allais dire économique, des solutions. C'est-à-dire que l'on a de la privacy by design, et on a de la privacy by design parce que nous avions une régulation. Et désormais, alors qu'au départ, la question de la protection des données n'était pas la première des obsessions, désormais on a des entreprises et des pays, des États qui demandent cette protection des données et demandent ces standards, et parce que nous nous sommes pliés à des règles dès le début, eh bien nos solutions
sont en pointe. Là, on a été au rendez-vous.
Là, je pense qu'on a été au rendez-vous, même si à l'époque, tout ce qui concernait la protection des données a été conspué, comme aujourd'hui d'autres réglementations que l'on met en place. Donc, et notamment celle sur l'IA. Sur l'IA, je pense qu'il y a un dosage à trouver. Il est indispensable de le trouver entre l'innovation et le fait de laisser effectivement les innovateurs aller au bout de leur recherche. Et effectivement des règles, parce que quand il n'y a pas de règles, on voit bien que l'on est en train, et on avait déjà un problème avec les droits voisins et Google, voisins, oui. Et on s'en souvient tous, parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore au bout de ce sujet, loin s'en faut. Et heureusement que l'autorité de la concurrence a été là et a été encore là il n'y a pas très longtemps pour imposer à Google le respect de ses droits voisins. Mais ça, c'était déjà avec le tout début de ce qui est, j'allais dire, la genèse de l'intelligence générative, lorsque Google reprenait des articles et en faisait des petits résumés. Alors, il faisait des résumés sans citer les articles.
Ouais,
et donc, vous avez finalement, pourquoi aller voir l'article si vous avez le résumé directement sur Google?
Si ça a marché, c'est peut-être aussi parce que les médias américains s'en sont émus de la même manière.
Eh bien, en tous les cas, sur l'IA générative, on est sur le même phénomène, puissance 10.
Emmanuel, et, vous voulez dire un mot? On a une 16. On pourra pas parler du CETA, on n'aura pas le temps.
Non, mais simplement pour dire que c'est une aberration pour moi, quand j'entends beaucoup d'hommes politiques dire l'Europe se tire une balle dans le pied parce qu'elle régule. Ça dépend. Il y a des bonnes régulations et des mauvaises. Il y en a une qui est excellente. Pour avoir de la croissance, il y a plein de facteurs, dont un qui s'appelle la concurrence. Ah oui, donc, toute la régulation sur la concurrence. Heureusement qu'on a la politique de concurrence. Et les Américains se mordent les doigts d'avoir mis en sommeil leur politique de concurrence. Et même le DMA. C'est pas si mal que ça, le DMA. dire.
Digital Market Act.
Exactement. Absolument. On va réguler un certain nombre de comportements, notamment pour permettre aux PME innovantes de ne pas être victimes de comportements, d'auto-préférences, etc. Donc, non, il n'y a pas de la bonne, il n'y a pas de la mauvaise régulation. Ça dépend de la régulation. Et celle qui concerne la concurrence, l'Europe devrait être fière d'avoir une politique de concurrence.
C'est que les mauvaises lois abîment les bonnes lois. Et de ce point de vue-là, effectivement, il faut, là encore, avoir un peu de discernement.
Bon, la prochaine fois qu'on se voit, je vous promets qu'on parle du libre-échange. Parce que Gabriel Attal a défendu le CETA, estimant qu'il était gagnant-gagnant, mais dans l'opinion politique, c'est quand même le réflexe protectionniste qui continue à l'emporter. Malheureusement, il ne reste qu'un second, on n'a pas le temps d'évoquer le sujet. Merci Emmanuel Combes, Léonidas Kalogeropoulos, c'est Rouen Tison, et on se retrouve demain à 9h. Alors, quelqu'un me demandait pourquoi ce studio. On a un problème technique dans le studio principal qui sera bientôt réglé. On va réintégrer nos pénates très rapidement. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.